Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez le quatrième épisode de la série 19, où on parle de développement personnel. Les trois premiers épisodes étaient consacrés aux ruptures amoureuses, mais aujourd'hui, on change de sujet. Je vais vous parler de ce qu'est le développement perso pour moi et de ma plus grande leçon. On y va. Le développement personnel, pour moi, c'est un moyen de grandir. Quand je pense développement personnel, je pense à tout ce qui me permet de m'améliorer de manière consciente. Derrière ce terme, je mets beaucoup de choses. Ça peut être de la psychologie, de la philosophie, de la spiritualité ou même de la religion. Le développement personnel, dit simplement, c'est le fait d'améliorer mes réactions face à des situations que j'ai déjà rencontrées. Je sais que je suis en train de m'améliorer quand je constate que ma réaction n'est pas la même qu'avant. Je vais vous donner un exemple personnel. J'ai toujours détesté être en retard. Je le sais, quand je suis en retard, je me sens stressée. J'ai pris conscience de mon stress dans cette situation et j'ai surtout réalisé que ce n'était pas une expérience agréable pour moi. Or, évidemment, je voudrais que ma vie soit, autant que possible, une suite d'expériences agréables. J'ai donc décidé de travailler sur cette situation. D'abord, j'ai cherché comment éviter d'être en retard. Et j'ai trouvé des solutions assez simples, comme regarder combien de temps il faut pour aller au lieu de rendez-vous, commencer à me préparer 30 minutes avant l'heure du départ, ou encore mettre une alarme sur mon téléphone pour signaler l'heure du départ. Ensuite, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire si, malgré ces stratégies, j'étais en retard. Et voici ce que j'ai trouvé. Prévenir la personne que je vais arriver en retard, la remercier de m'avoir attendue quand j'arrive et opter pour un moyen de transport plus rapide que celui que j'avais prévu initialement. Et si vraiment je suis en retard et que je n'ai pas de solution pour arriver à l'heure, alors c'est un travail mental que je fais. Dans ma tête, je relativise. C'est pas si grave, c'est pas la fin du monde si j'arrive en retard. Dans le pire des cas, la personne ne m'attend pas et on reprogramme ce rendez-vous. Dans le meilleur des cas, elle m'attend et je m'excuserai. Je prends aussi de profondes inspirations pour calmer mon système nerveux et faire redescendre mon niveau de stress. Voilà, c'est comme si j'avais un plan dans ma tête. Si je suis dans la situation A, je peux utiliser la stratégie 1, 2, ou 3. Donc, pour moi, faire du développement personnel passe par plusieurs étapes. Étape 1, prendre conscience qu'une situation n'est pas agréable. Étape 2, décider de changer cette situation. Étape 3, faire un travail actif pour trouver des solutions. Étape 4, appliquer ces solutions. Étape 5, améliorer ses solutions au fur et à mesure des expériences. Ainsi, d'après moi, le développement personnel est forcément un processus d'introspection. Pour grandir, on est obligé de s'observer. C'est aussi un processus actif. Pour trouver des solutions, il faut prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir, de discuter, de lire des livres, de créer des stratégies. Puis, de mettre en œuvre ces stratégies et d'observer comment on se sent grâce à elles, encore. Finalement, c'est un processus sans fin. A contrario, quelqu'un qui ne fait pas de développement personnel pourrait simplement penser « Je déteste être en retard, j'aime vraiment pas ça, ça me stresse », sans toutefois s'engager dans la recherche de solutions pour changer cette situation. J'espère que mon exemple est assez clair. Pour être honnête, depuis que j'ai lu mon premier livre de développement personnel, j'ai l'impression que ne plus en faire n'est pas une option. Avant, je vivais ma vie simplement. Je dirais que je vivais sans relief. J'agissais sans réfléchir à mes actions, sans avoir conscience que je pouvais choisir d'agir différemment. Je faisais, je parlais, je décidais et la vie filait comme ça, jour après jour. À 19 ans, j'allais en cours à l'université et je me plaignais des cours qu'on nous programmait le samedi matin, sans savoir que j'avais de la chance de pouvoir aller à l'université. La notion de gratitude m'était totalement inconnue. Je sortais avec mes amis, je buvais des bières et le lendemain, je leur en voulais de m'avoir fait boire autant, sans réaliser que même s'ils pouvaient m'influencer, la décision de boire était bel et bien la mienne. Je n'avais pas conscience du concept de la responsabilité. Quand mon copain de l'époque m'a trompée, je me suis retrouvée complètement bouleversée, avant de le convaincre de reprendre notre histoire. Je n'avais aucune idée que j'agissais selon des schémas psychologiques. J'avais peu confiance en moi, alors je cherchais l'approbation chez les autres, quitte à prolonger une situation où on me manquait clairement de respect. Le besoin d'être aimé et apprécié était plus fort que celui d'être respecté. C'était comme si la vie n'avait qu'une dimension, celle des actions. Ça ne veut pas dire que j'étais bête et que je ne réfléchissais pas. Non, c'était plutôt comme si je ne réfléchissais pas en profondeur. Je n'avais pas conscience de tout ce qui se passait sous la surface, en moi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la vie a plusieurs épaisseurs. Je ne pense pas du tout être 100% consciente de tout ce qui se passe en moi, et d'ailleurs, je ne pense même pas que ce soit possible de l'être. Mais une chose est sûre, je me sens vraiment plus connectée à moi-même. J'ai l'impression de beaucoup mieux me connaître, de beaucoup mieux me comprendre. J'ai la sensation d'avoir une liberté d'agir beaucoup plus grande et une compréhension du monde plus claire. Comme j'inclus la spiritualité dans le développement perso, j'ai aussi beaucoup plus l'impression d'appartenir à un tout, de n'être qu'un infime grain de sable sur une plage immense, qu'une poussière dans l'univers, au même titre que n'importe quel être vivant sur cette terre. En parallèle, j'ai la sensation d'être un être multidimensionnel, composé d'un corps, d'une conscience, d'un mental et sans doute d'autres choses invisibles. Je crois que la leçon la plus précieuse que j'ai apprise grâce au développement personnel, c'est celle de pouvoir choisir mes pensées et du pouvoir des pensées. Avant, je ne savais pas que je pouvais dire « Non merci, cette pensée ne m'est pas utile, je n'ai pas envie de m'engager dedans. » Je recevais des pensées et des émotions, sans aucune possibilité de les modifier. Quand j'étais bloquée dans la circulation et que ça n'avançait pas, je tapais du pied, mon cœur battait rapidement. Je n'ai pas l'habitude d'insulter les autres conducteurs, mais je disais des choses comme « Allez, avance !» et j'étais toute consumée par mon impatience. Je me détendais seulement quand la circulation redevenait fluide. Aujourd'hui, je fais le maximum pour éviter ces situations. Et quand elles se présentent quand même, je les vis plus sereinement. Je suis encore stressée, mais je peux le remarquer. Et je suis capable de retrouver un état de sérénité plus rapidement. Parfois, je rigole même de moi-même. Regarde comme tu t'énerves pour rien. Allez, il n'y a rien de grave, calme-toi. Tout va bien. J'ai lu un jour que nos pensées définissent notre réalité et je suis 100% d'accord avec cette idée. Je l'ai retrouvée sous plein de formes différentes, dans plein de livres différents. Je pense que la manière dont nous percevons, dont nous interprétons les choses, conditionne nos expériences. Pas plus tard qu'hier, je prenais un verre avec trois personnes que je venais de rencontrer, dont une fille que je vais appeler Pamela. Au début, j'ai trouvé Pamela super sympa. Et puis au fur et à mesure de la soirée, j'ai senti un sentiment négatif se développer en moi. Je commençais à la trouver auto-centrée et je n'aimais pas le fait qu'elle soit sur son portable alors qu'on discutait. J'avais pas l'impression qu'elle était à l'écoute. J'ai remarqué toutes ces réactions en moi et j'ai décidé d'agir car ce n'était pas agréable. D'abord, je me suis dit que c'était moi qui interprétais le fait d'être sur son téléphone comme un manque d'attention. Mais peut-être qu'elle arrivait très bien à faire ces deux choses en même temps. Ensuite, j'ai pensé que si je me sentais un peu frustrée à discuter avec elle, je pouvais simplement mettre plus d'attention sur les autres personnes. C'est ce que j'ai fait. Finalement, je me suis dit que je venais de rencontrer Pamela et que j'étais en train de former une image d'elle dans mon esprit, ce qui est tout à fait normal et inévitable. Cependant, je me suis aussi souvenu que l'image que j'étais en train de créer n'était peut-être pas conforme à la réalité. Et alors, je lui ai porté plus d'attention pour apprendre à la connaître et ne pas m'arrêter à ses impressions. Je lui ai posé des questions et j'ai écouté ses réponses. Je sais que deux choses aident à créer de bonnes relations humaines. Quand on se trouve des points communs et quand on rit ensemble. Alors, sans pression, j'ai essayé de faire ça. Je ne sais pas si Pamela va rester une connaissance ou deviendra une copine ou même une amie. Mon intuition me dit que notre relation ne va pas devenir plus forte, mais je laisse la porte ouverte à toutes les possibilités et je suis prête à observer son évolution. La chose la plus importante pour moi dans cette situation est que j'ai réussi à voir que j'étais de moins en moins à l'aise et qu'en changeant d'attitude face à Pamela, j'ai finalement passé un bon moment. Dans le passé, je pense que mon attention aurait juste été bloquée sur mes sensations négatives et que j'aurais même trouvé des preuves à mes pensées. Ah, elle regarde encore son portable, elle ne parle que d'elle, elle ne pose pas de questions aux autres, elle n'est pas très souriante. Mais pourquoi m'infliger ce genre de réflexion? Est-ce vraiment comme ça que j'ai envie de vivre les choses? Non, non, évidemment que non. Si j'ai le choix, je préfère nettement écouter et observer Pamela sans la juger. Noter sa manière d'agir sans l'interpréter. En somme, l'accepter telle qu'elle est. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai le choix. Vous allez peut-être penser que je réfléchis trop, que je suis totalement folle de penser autant pour une si petite interaction. Et vous avez peut-être raison. Seulement, moi, je sais que ma vie est plus agréable depuis que j'ai compris pouvoir choisir mes réactions. J'avoue que parfois, je me sens fatiguée par toute cette activité mentale. De temps en temps, j'ai l'impression de vivre ma vie avec une conscience aiguë des choses et j'ai envie d'éteindre mon cerveau. Voilà comment je vois les choses aujourd'hui. Les moments où je me sens le mieux, ce sont ceux où je me sens unifiée, où je vis sans me poser de questions, où j'avance naturellement, où tout est simple et fluide. Ensuite, ce sont les moments où je vis en observant ma manière de vivre. Les moments où je me sens le moins bien, ce sont ceux où je suis dans ma tête, où je ne suis que dans mes pensées, déconnectée de mon corps, de mon esprit ou intuition. Ce que j'essaie de faire, c'est de trouver un meilleur équilibre entre le mental, le corps et l'esprit. C'est-à-dire de passer moins de temps à penser et plus de temps à ressentir. Je n'ai aucune idée si ce que je raconte vous parle ou pas du tout. J'ai conscience que beaucoup de personnes ne se posent probablement pas ce genre de questions et j'espère que vous arrivez à suivre mes réflexions. Cet épisode est déjà assez long, alors je vous laisse et je vous dis à bientôt pour le prochain. Prenez soin de vous.